France Musique.
Bonne fin de soirée à vous, Lionel Esparza, et à demain.
France Musique.
Bienvenue dans À l'improviste, le rendez-vous des musiques qui s'inventent dans l'instant. Nous nous retrouverons toute cette saison le jeudi désormais. Programme de cette première émission de la saison, un patchwork sonore élaboré à partir d'éléments glanés cet été lors de la 26e édition du festival Jazzaluse, festival d'altitude en Pays Toy. Un patchwork sonore et une œuvre collective à la fois puisque j'ai mis à contribution pour cette émission spéciale les deux animateurs de fréquence LUS, la radio des Vallées des Gaves, une radio qui ne manque jamais une édition de Jazzaluse. Merci donc à Arnaud Picmal et Thierry Saubion, pour leur collaboration. Avec eux, nous allons parcourir à pas de course, à pas de charge, 48 heures de musique à Jazzaluse.
Les festivals de l'été sont sur Fréquence Luce.
Fréquence Luce,
évidemment.
Jazzaluse n'est pas un festival comme les autres. D'abord parce qu'il a pour écrin les Hautes-Pyrénées et le village de Luce-Saint-Sauveur. En soi, c'est déjà une promesse d'enchantement. Ensuite, parce que c'est un festival presque à 100% de plein air. La preuve, la musique de Captain Panda, qui se fait entendre là, a été saisie par mon micro dans les rues de Luce-Saint-Sauveur le 13 juillet, c'est-à-dire le tout premier jour du festival. Et c'est à cette fanfare au répertoire original qui croise le hip-hop, le jazz et le funk, que revenait la fonction d'ouvrir la manifestation, d'emmener le public sur le premier lieu de concert. Jazzaluse a 26 ans. Au micro d'Arnaud, le directeur artistique du festival, Jean-Pierre Lérac, évoque le cap des 25 ans.
Il n'est pas trop dur à passer ce cap des 25 ans, justement, en termes par exemple de programmation, retrouver ce renouvellement qui fait votre force.
Ben, tant qu'on trouve des groupes qui nous surprennent, ça ira. Moi je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir l'année prochaine, mais comme on fait chaque fois le pari de tout changer, de reprendre des choses nouvelles, mais je sais qu'il y a une telle richesse au niveau du jazz en France, en Europe, etc., ce qui, on n'a pas de mal chaque année à trouver quelque chose de tout à fait nouveau qui va surprendre. Et c'est cette richesse qui nous permet justement chaque année de proposer cet étonnement aux festivaliers. Quoi.
Cette 26e édition du festival s'est montrée particulièrement gourmande, particulièrement riche. Trois fils rouges l'ont traversé, les collectifs, les installations et les solos. Et c'est un solo du tromboniste Fidèle Fourneron qui s'est fait entendre le 14 juillet dans l'acoustique privilégiée de la maison de la Vallée de Luce. Pas de plein air donc pour ce solo au long souffle, mais au contraire, l'écoute tout à fait attentive d'un public lové dans les fauteuils bleus de la maison de la Vallée. Alors Fidèle Fourneron s'est lancé dans cette forme de mise à nu qu'est le solo il y a à peu près un an, parallèlement à ses implications multiples dans les collectifs Umlaut, l'actuel Orchestre National de Jazz, Jukebox et Real Think de Marc Ducré. Arnaud de Fréquence Luce a rencontré pour nous le tromboniste juste après son concert en solitaire.
Fidèle Fourneron, ravi de te rencontrer ici au festival Jazzaluse après un moment vraiment, vraiment émouvant, j'ai envie de dire ça. J'imagine que ça allait autant pour le soliste que tu es que pour le public. Juste pour préciser, donc, tu sors d'un solo à la Maison de la Vallée dans le cadre de ce festival Jazzalus. Ça s'aborde comment, ce genre de moment-là? On n'a pas les copains autour pour jouer, ça met un peu plus la pression?
Ouais, c'est sûr, moi j'ai pas une très grosse expérience de cet exercice du solo. J'ai commencé à faire ça il y a un peu plus d'un an, du coup je l'ai dû le faire une dizaine de fois. Là ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait en plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. On se retrouve à... Enfin, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit bon ben voilà, c'est à 15h, c'est un petit côté un petit peu veillée d'armes ou dernier jour du condamné à mort. Donc en même temps c'est super intense comme exercice, et c'est vrai qu'on est vraiment, bah, c'est un solo, donc on est livré à soi-même, et du coup ça permet de... Il y a beaucoup de choses que je fais dans ce solo qui sont des idées que j'ai eues en jouant dans d'autres groupes, en jouant dans d'autres contextes, et que le fait de faire un solo, ça m'a permis de les développer un peu plus, de me dire bon alors voilà, j'ai ce son-là, quand je mets ma bouche comme ça et que je fais ça, ça fait ce son-là. Bon, bah alors maintenant, ça serait cool d'essayer d'en faire de la musique.
T'arrives avec des choses déjà réfléchies ou t'es en total impro, tu suis le fil du moment ?
Non, je sais pas de l'impro total, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Je suis quand même un musicien de jazz plus qu'un musicien vraiment de l'impro pur, même si je me frotte un peu à ça. Mais moi, j'aime bien préméditer un peu ce que je fais, du coup, je me suis écrit des compositions pour moi-même, donc voilà, que j'ai réfléchi. Donc c'est des improvisations que j'ai composées ou des compositions sur lesquelles j'improvise. Voilà, c'est un truc un peu particulier, c'est ce que j'avais envie de faire. Voilà, donc c'est sûr que ça me laisse beaucoup de place pour improviser, mais en même temps ça me cadre. J'aime bien avoir un fil conducteur, une dramaturgie. J'aime bien de proposer ça aux gens, et je pense que c'est peut-être plus facile à aborder pour le public aussi.
Festival Jazzalus, tu t'y es attaché un petit peu, t'en penses quoi? Vas-y, dis la vérité, si t'aimes pas, tu peux le dire.
Ben franchement, moi j'étais vraiment super content de venir présenter ces deux projets ici, donc Un Poco Loco et mon solo, parce que je suis déjà venu avec d'autres projets qui sont moins personnels, disons, et j'ai toujours trouvé ce festival vraiment... C'est ce qui ressemble le plus pour moi à ce que doit être un festival, c'est-à-dire que les gens viennent là, ils sont vraiment hyper ouverts à tout, ils sont super respectueux de la musique qu'ils écoutent, et donc j'ai fait mon solo comme ça aujourd'hui là devant beaucoup de monde, il y avait une écoute vraiment super attentive et bienveillante. Hier pareil, on a joué, on avait un peu peur au début parce qu'on a joué avec Un Poco Loco, il y avait... Je sais pas, il y avait 200 personnes, il y avait un bar qui était ouvert. Bon, ces genres de contexte, en trio acoustique comme ça, ça peut vraiment être un mauvais moment, parce que si les gens commencent à faire du bruit et tout, on peut pas lutter. Et là, c'était vraiment pas le cas. Les gens étaient avec nous. Et voilà. Après, pour revenir au festival, la programmation, moi, je trouve qu'elle est super. Il y a une ambiance. Et c'est sûr que la plupart des musiciens que je connais, quand on parle de Jazzalus, le premier truc qu'on dit, c'est qu'on a envie de revenir. C'est sûr.
Yeah.
Les mélomanes de Luce Saint-Sauveur qui ont été séduits par le solo de Fidèle Fourneyron ont pu rentrer chez eux avec son album solo, High Fidelity, paru en novembre dernier sur le label Umlaut. Le festival Jazz à Luz a aussi offert à Fidèle Fourneyron l'occasion de présenter aux festivaliers la musique de son trio Un Poco Loco avec Sébastien Bellia et Geoffroy Gesser, un trio emblématique car il réunit des musiciens d'un collectif parisien et berlinois à la fois, particulièrement actif et inventif, le collectif Umlaut. Luce Saint-Sauveur, c'est un petit village des Hautes-Pyrénées, quelques rues qui rayonnent autour de la chapelle des Templiers, et il est très facile de rejoindre à pied les différents lieux investis par le festival. Pendant le solo de Fidèle Fourneyron et jusqu'à 23h ce 14 juillet, une étrange musique s'est fait entendre dans le forum de Luce Saint-Sauveur. Une polyphonie étonnante et intrigante, une musique de ballon de baudruche reliée à des tubes, des robinets et des trompettes en plastique. Dans cette installation, le savon et l'eau jouaient aussi leur propre rôle. Cette expérience sonore, c'est Alex Mendizabal qui l'a proposée aux festivaliers. Né dans le Pays basque espagnol, Alex Mendizabal vit aujourd'hui à Rome en Italie. Il n'aime pas beaucoup parler de son travail, l'action l'intéresse bien davantage et surtout le fait de s'adapter au lieu dans lequel il installe son dispositif. François, l'un des piliers de l'association Jazzpeer qui organise Jazz à Luz, a participé justement à l'installation de Alex Mendizabal. Son témoignage.
Ouais, c'est une longue histoire ça. C'est pour l'installation sonore d'Alex Mendizabal, un artiste plasticien sonore du Pays Basque qui vit maintenant en Italie, qui va faire une installation le jeudi 14 juillet dans la salle du forum ici à Luz. C'est une installation un peu particulière de ballons de baudruche, de gros ballons. Et il va y en avoir entre 50 et 100 installés dans ce forum. Et ça fait plus d'un mois qu'on cherche un système d'accroche efficace pour cette installation atypique. Et donc on est passé un peu partout, par la pâte à fixe, le fil de nylon accroché aux fenêtres, au pont lumière fourni par notre prestataire son. Et là, on vient de trouver un truc pas mal, c'est d'utiliser les chaises léopard du forum. Et on était à la recherche donc de perches, de bambous, de noisetiers. Et finalement, comme on est en lien avec la régie de Lussardidène, on est allé les voir hier pour récupérer le matos cuisine qu'ils nous prêtent gracieusement. Et on s'est dit, tiens, les jalons des pistes de ski, ça c'est une bonne idée. En plus, c'est un peu aux mêmes couleurs que les ballons de baudruche. Voilà, et donc ça se règle, c'est super.
Beaucoup d'humour et une façon très ludique de faire du son avec peu de moyens, c'est le credo de Alex Mendizabal, l'un des installateurs invités par cette 26e édition de Jazz à Luz. C'est la première fois que le festival met l'accent sur les installations sonores, une forme d'expression particulière évidemment qui donne à voir et à entendre en même temps et qui révèle souvent des personnalités, des figures d'artistes hors catégorie, autant bricoleurs fous que bidouilleurs et détourneurs d'objets. C'est ce que nous dit Jean-Pierre Lérac, le directeur artistique de Jazz à Luz.
Il y a tout un monde comme ça, un peu à part, d'installateurs sonores, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est des gens qui inventent des musiques avec des objets, et il y a vraiment des gens très différents dans ce monde-là.
Du forum où a eu lieu l'installation de Alex Mendizabal au chapiteau où se déroulent tous les concerts du soir de Jazz à Luz, quelques pas suffisent. Le chapiteau, dressé en plein air devant la montagne, c'est le cœur de Jazz à Luz. C'est sous ce chapiteau que jouent le 14 juillet les musiciens réunis autour du contrebassiste franco-allemand Pascal Niggenkemper. Ils sont allemands, autrichiens, belges, espagnols et français. Et Pascal Niggenkemper a imaginé pour eux une musique baptisée le septième continent parce qu'elle s'inspire d'images, de documentaires sur les déchets humains qui flottent dans l'océan et qui forment ce qu'on appelle le septième continent. Pascal Niggenkemper a eu envie de faire chanter, siffler, vibrer, murmurer et crier ce septième continent, une musique à la croisée des chemins entre improvisation et écriture. Face à face, deux pianistes, deux clarinettistes et deux instruments graves, la contrebasse et la flûte sub-contrebasse. Avant d'entrer sur la scène du chapiteau, les musiciens répètent à la maison de la vallée, mon micro traîne là par hasard.
Technically, this is not possible. If I do a drone, I can't move it, the drone to a... So I have to do a cut.
Yeah, you do a cut and then you get your...
But perhaps, perhaps it's nicer if everybody does a cut, if the thing and the sound and...
De Septième Continent, le nouveau projet de Pascal Niggenkemper avec les clarinettes de Joris Rühl et Joachim Badenhorst, les pianos préparés de Evrisser et Philippe Zubeck, la flûte sub-contrebasse de Julian Elvira et évidemment la contrebasse de Pascal Niggenkemper. Cette musique s'est invitée à Jazzalus le 14 juillet dernier, mais on peut la retrouver sur un album paru en mai dernier sur le label Clean Feed. Dernier concert sous le chapiteau de Lucin Sauveur en ce jeudi 14 juillet. Les attentats meurtriers de Nice n'ont pas encore eu lieu et c'est en toute insouciance que le public de cette 26e édition de Jazzalus accueille le duo de Frédéric Lejeunter et de Dominique Repeco, Massif de Fleurs. Alors le premier est guitariste et c'est aussi l'instigateur du festival Musique Action avant d'œuvre les Nancy. Le deuxième est un bricoleur, un inventeur à la poétique particulière. Dans ce duo au long cours, il manipule, Frédéric Lejeunter, des instruments joués par des machines et chante aussi, car la chanson d'amour décalé, est au cœur de la musique de ce duo, pas tout à fait comme les autres. Je lis ce que je bois. La musique de Massif de fleurs de Dominique Repeco et Frédéric Lejeunter a déchiré le ciel très pur de Luz Saint-Sauveur. Frédéric Lejeunter œuvre souvent en solitaire. Le côté art brut de ce plasticien et inventeur d'objets, son côté Dubuffet, impressionne parfois les musiciens. Il est rare d'ailleurs qu'il s'associe à son travail. Dominique Repeco fait exception.
Alors la conjonction avec Dominique Repeco, c'est qu'en fait en 95 au Festival Densité à Fresnes en Wavre, ils nous ont proposé de jouer ensemble, de conjuguer mon bricolage, etc. Puis les premières chansons que je commençais à faire. Et puis avec Dominique qui envoie un son massif, large et tout. Et donc on s'est confronté à ça, quoi, ce truc-là. Et du coup, moi, il y a tout cet aspect saturation du son, complexité sonore avec... des cordes, des petits moteurs et tout ça que j'ai pu développer comme ça aussi. Enfin, on a pu trouver un terrain d'entente avec ça, quoi.
Le Festival Jazz à Luz a donné une carte blanche à deux visages, à Frédéric Lejeunter, invité aussi comme installateur. Au micro de Arnaud, de Fréquence Luz, il évoque sa relation aux objets et à la matière sonore.
Et pourquoi la matière sonore? Alors, il y a deux choses. Il y a le paysage portuaire de Dunkerque, quand je suis gamin. Et puis quand j'ai 9-10 ans, j'ai enfin un petit poste de radio. Et puis passé 10 heures du soir, il y a les groupes les groupes anglais qui arrivent. Donc je parle de ça, c'est 66, hein, 65, 66, 67. J'entends les premiers groupes de guitares saturées, les Black Sabbath. Et puis bon, il y avait les Stones aussi, mais tout ça. Mais plutôt un son un peu plus lourd, épais comme ça. Et donc là, je dis, waouh, ça c'est formidable le son que c'est. Voilà. Mais en fait, c'est par la saturation de la guitare électrique qui m'a frappé, quoi. Mais ça, je l'ai analysé beaucoup, beaucoup plus tard. Donc voilà, je me suis engouffré là-dedans.
Inconsciemment, l'idée remonte donc presque à l'âge de 9-10 ans.
Le premier, la matière sonore, le paysage, c'est 5 ans. Vraiment, je sais exactement le moment. Et puis alors, il y a aussi un truc dont je parle régulièrement, c'est que quand on se promène dans le port, alors la promenade du dimanche, c'est ça, on va dans le port à Dunkerque dans ces années-là, voir tout ce qui se passe, les bateaux et tout, parce qu'il y a beaucoup de bateaux. Et il y a un pont d'une écluse qui a un tablier en acier avec des trous dedans. Quand on passe en voiture là-dessus, ça fait une espèce de... comme ça, dans la bagnole. Et ça, c'est un son fantastique. Donc j'étais gamin, entre 5 et 10 ans, j'attendais qu'on passe sur ce pont. Parce que ça, c'est un beau son, quoi. Et ça dure, quoi, quelques secondes, hein. Le pont, il fait 30 mètres. Mais on a drôlement envie que ça dure des heures, quoi. Tellement c'est beau, quoi.
Finalement, plus qu'installateur, on peut dire créateur de son.
Ouais, en fait, je suis plus intéressé par la lutherie, c'est-à-dire comment je vais fabriquer le son avec un objet acoustique. Et quel micro je vais arriver à mettre dessus pour arriver à sortir ce son et que ça va être amplifié et faire un son complexe. Voilà, je suis attiré par ça. Et après, je joue tous ces trucs-là. Donc en fait, c'est presque musicien et compositeur, ça vient après. la recherche de la matière sonore. Et alors évidemment, quand les synthés sont arrivés et les ordinateurs, ben, j'avais pas les sous. Donc j'ai regardé ça comme ça et j'ai continué avec les objets. J'ai pas pu directement attaquer avec ces machines-là, quoi. Sinon, moi, j'aurais été intéressé par un sampler et j'aurais pu tout de suite faire une musique plus complexe.
Anne Montaron, à l'improviste, France Musique.
Massif de fleurs, c'est le nom d'un duo, mais c'est aussi une réalité de Luce Saint-Sauveur l'été. Car finalement, les jardiniers de Luce sont particulièrement inventifs et ils inspirent les créations de l'équipe d'architectes improvisateurs sollicités par le festival depuis des années pour habiller, pour aménager les espaces de concert et de convivialité du festival, c'est-à-dire le verger où les festivaliers et les musiciens se restaurent, le chapiteau et les loges des artistes. Ce collectif s'appelle les Jolly Rogers et même si leur travail ne se voit pas à la radio, il vaut bien une petite séquence radiophonique. Une séquence introduite par Karine, administratrice du festival, et Jean-Pierre Lérac, directeur artistique de Jazz à Luce, au micro de Arnaud, de Fréquence Luce.
En ce moment, ça se prépare, le chapiteau est monté, les Jolly Rogers installent le verger, agencent tout ça. Ça avance bien pour l'équipe de Jazzpire, là ?
Mais le verger a commencé à prendre les allures de festival, quoi. Les choses, les Jolly Rogers montent petit à petit leur truc. Mais en fait, là, on regarde un petit peu d'un œil, mais on sait pas ce qu'il va y avoir au bout.
On attend la fin.
Voilà. Avec les Jolly Rogers, c'est pas la peine de se poser des questions. Voilà. Chaque année, c'est un peu la surprise avec eux, mais c'est quand même, ils font de l'art.
C'est un collectif d'artistes qui nous suit pour notre plus grand bonheur depuis plusieurs années maintenant et qui viennent s'occuper de faire une installation toute particulière sur le site du Verger. Et en général, voilà, ça contribue à l'enchantement de tous nos festivaliers quand ils arrivent le premier jour, quand ils découvrent voilà, cette installation originale des Jolly Rogers.
Chaque année, les structures éphémères des Jolly Rogers déclinent un thème. Celui de cette année associe plusieurs éléments, rapides tours de table dans l'atmosphère détendue du verger. Les voix de Léa et de Josie se font porte-parole des autres.
Alors donc, le fil rouge là, de ces installations végétales est bâché.
C'est la vague.
La vague.
La vague de quoi ? La vague, oui, la vague, tout simplement. C'est la déferlante, c'est la déferlante de musique, c'est la déferlante de jazz, de liberté, d'amour, de fraîche.
Sur l'affiche, on a les embruns qui font voler les cheveux et nous, on a la vague.
Voilà, c'est les embruns de vague.
Voilà. Et donc, on a des bâches qui volent au vent pour faire la vague ?
Pas du tout. On a des bâches qui font piscine.
Et il y a du végétal, donc de l'aquatique, du liquide et du végétal.
Alors le végétal, c'est une manière de reconnaître le travail des jardiniers de la commune de Luce Saint-Sauveur qui nous ont fait pousser des tas de végétaux et pour qu'on les insère dans notre structure. Donc voilà, on a bien travaillé avec eux.
Quel type de végétaux ?
Il y a des hypomées, des pois de senteur, des suzanes aux yeux noirs et un œillet d'Inde.
Comment tu t'appelles ?
Moi, je m'appelle Juzi, J-I-U.
Et tu viens d'où,
Juzi ? Moi, je viens de Toscane.
Ah, ouais. C'est beau, la Toscane. Hein ?
Il y a beaucoup de plantes en Toscane, ouais.
Depuis quand tu fais partie du collectif ?
Depuis des heures et des heures, je dirais. Hein. Non, depuis cette année, en fait.
C'est la première.
Oui, je découvre et c'est vrai que c'est assez... C'est beau, c'est une belle mise ensemble. En fait, philosophiquement, je pensais que c'est une belle découverte de vie. Parce que comment ça marche ce collectif, en fait, il prend des objets qui sont déjà là, des matériaux. C'est un peu comme ce qui fait le jazz et l'improvisation. Et on va faire avec ce qu'on a. Et je me suis dit que si dans ma vie, j'arrive à faire des choses avec ce que j'ai, c'est quand même mieux de s'imaginer une grosse idée et essayer de l'atteindre. C'est une belle façon de faire.
Belle façon d'aborder l'existence.
Ouais.
Et nos limites et nos richesses.
Ouais. Mmh. Et on prend ce qu'on a et on se fait venir des idées avec ça.
On a un cahier des charges qui est établi par l'association de Jazzpire qui nous dit on veut un guichet avec trois files d'attente étanches, on veut une crêperie, on veut ci, on veut là. Mmh. Et nous, on va répondre à cette commande avec les éléments qui sont déjà là. Et de la même manière, on décide, nous, on dit qu'on fait de l'architecture improvisée. Donc, pourquoi architecture ? Parce qu'on répond à ce cahier des charges. Donc, finalement, on livre le chantier. mais improviser parce que ben on a décidé de pas dessiner et de se juste se raconter ce qu'on pense de ce qu'on va faire. Donc à chaque fois on comprend pas très bien tous les mêmes choses et on les exprime et en les exprimant encore ça fait encore d'autres types de compréhension. Mais à la fin, voilà, ça donne ça, et je sais pas si aucun de nous y avait pensé au départ, en fait, en se l'expliquant, voilà.
Work in progress. Rogers, une équipe d'architectes improvisateurs pas comme les autres, aussi improvisateurs d'ailleurs que les musiciens invités à jouer à Jazz Luz. À Luz Saint-Sauveur, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas tout à fait. La journée du 15 juillet à Jazz Luz était tout à fait particulière car itinérante, en tout cas le matin. Les festivaliers étaient invités à une petite excursion dans le village d'à côté, Esquies-Serre, pour assister à deux solos successifs dans deux églises à flanc de colline. C'est ce que Jazz Luz appelle « Jazz en marche ». Dans la première église, le public retrouvait le contrebassiste Pascal Niggenkemper, entendu la veille dans « Septième continent ». On a découvert son travail en solitaire cette saison dans « À l'improviste » et un album paru sur le label portugais Clean Feed rend compte de ce solo original. Thank you.
Et dans la deuxième église d'Esquiez, Serres, le public itinérant, séparé en deux groupes, a retrouvé le violoncelliste Gaspard Claus, découvert en trio le premier jour du festival, aux côtés de Thomas Bonvalet et de Will Guthrie. J'ai découvert, pour ma part, l'univers sonore de Gaspard Claus au hasard d'une émission de radio dans la superbe abbaye du Touronnet en duo avec Catherine Jauniot. Ce musicien passe-muraille, très généreux, a offert ce matin-là à Luz deux solos expressifs et méditatifs que lui ont inspiré les événements tragiques de la nuit du 14 juillet à Nice.
L'église sonnait extrêmement bien, et aujourd'hui on est le lendemain du 14 juillet, et j'ai un peu ruminé la tragédie niçoise toute la nuit. Et il y a eu quelque chose de très fort et de très lâché et de très honnête dans mon petit solo de 20 minutes ce matin à l'église. Enfin, moi j'ai vraiment ça faisait longtemps d'ailleurs senti de la musique passer pour quelque chose. Étrange, j'avais pas prévu de devenir musicien et c'était pas mon plan de vie.
T'avais un plan de vie?
Non, justement, j'évitais. J'essayais de pas devenir quoi que ce soit, et puis du coup, je me suis un peu fait rattraper par ça. Et aujourd'hui, je l'assume beaucoup, mais pendant un moment, je comprenais pas trop pourquoi j'étais en train de devenir musicien. Professionnel, beaucoup de gens disent « Ah, vous êtes professionnel ».
T'as l'impression que c'est la musique qui est venue te chercher?
Ouais, j'ai des amis qui courent derrière leur carrière, et moi j'ai plutôt l'impression de me faire poursuivre par ça, et donc c'est très bizarre. J'ai plutôt l'impression de toucher à un monde inconnu quand je joue à l'endroit où j'ai envie de jouer, quand je joue bien, que d'arriver au point où j'avais envie d'arriver. Et par contre, la justesse, c'est ça. Pour moi, c'est comme... En fait, il y a des jours où on fait ce qu'on peut, on a un peu travaillé, donc on a plein de garde-fous pour pas complètement se planter, mais la justesse n'est pas là. Mmh. Et c'est pas juste la note jouée juste. Je sais pas, je pense en photo c'est pareil, un photographe, je l'imagine très bien passer un mois à chercher une photo et à tout faire pour me la mettre en place et à ne jamais arriver à la trouver, et puis un jour se lever, tendre le bras, faire clic, et tout est en place dans le cadre. Et il y a des jours où on prend l'instrument et on est en train de penser complètement à autre chose, et où qu'on pose l'archer, où qu'on pose la main sur le manche, ça tombe très juste. Et je sais pas à quoi c'est dû. Je pense qu'il y a une histoire d'écoute.
Oui.
Qui c'est très, pour moi, on a le droit de faire ce qu'on veut sur scène, le pire. On peut faire rire, on peut se lever, mettre un coup de poing à son partenaire. Si on est dans une écoute, ça ne peut pas être hors piste. Mais il y a aussi un truc qui vient un peu de l'extérieur. Enfin, les moments où on joue vraiment juste, c'est quand tout autour de soi se met en place pour que quoi qu'on fasse tomber comme son, ça tombe au bon endroit.
C'est presque la même alchimie que dans la vie quotidienne aussi. Ouais. Parfois, on marche à côté de ses chaussures toute la journée, et puis tout d'un coup, il y a un moment de grâce, les éléments se rassemblent, une convergence.
Il y a un truc comme ça. J'ai fait du billard pendant longtemps,
et
j'avais un entraîneur et tout. Et c'est pareil, le billard, il y a des jours où on n'en met pas une, et pourtant on se concentre, et pourtant on fait vraiment des efforts, et on souffle, et on respire, et on vise, et ça rentre pas. Et puis il y a d'autres jours où on fait 10 parties et on fait des cases fermées, et en discutant et en regardant ailleurs, les boules rentrent. Et ça relève un peu de la magie. Et c'est plutôt cette chose que je recherche, mais à laquelle je ne peux rien.
Oui. C'est comme une grâce, mais qui apparaît. Des solos de Gaspar Claus et Pascal Niggenkemper, des moments d'écoute privilégiés, très privilégiés. Les deux musiciens se sont retrouvés sous les arbres, derrière les églises du village d'Esquies-Serres, pour un impromptu improvisé et totalement inédit. Ils ont joué sans rien savoir l'un de l'autre, sans micro, sans acoustique porteuse donc, dans le vent, et pour le public autant que pour les montagnes.
Est-ce que ce lieu-là, très rural, très montagnard, est-ce que ça a influencé votre jeu là, à tout à l'heure?
Oui, non, parce qu'on est dehors. Moi j'entendais le vent, j'entendais beaucoup le vent, donc il était présent, du coup il donnait un niveau sonore. Si on voulait, il fallait soit passer par-dessus, soit se laisser emporter par lui, soit le laisser vivre. Après, moi je ferme, on en parlait à l'instant, mais en général je ferme les yeux quand je joue, j'arrive pas trop à faire autrement. Du coup j'ai une vision très auditive de ce qui se passe autour, donc j'ai. Les montagnes, ça fait 3 jours qu'on est dedans, et je les sens bien présentes, et je ne les ai pas regardées en jouant. Là.
Et moi aussi, j'avais pas mal les yeux fermés, voilà, j'aime bien de jouer comme ça. Et il y avait juste un petit moment où je regardais les collines, et c'est beau quoi, ce décor.
Somme, le 15 juillet, le festival Jazzalus bat son plein, et avant de rejoindre le chapiteau de Lucin Sauveur pour la suite des festivités, les festivaliers sont invités à retrouver Basile Robert, artiste sonore, dans la salle du conseil de la mairie qu'il a remplie d'une forêt sonore en ferraille animée depuis un ordinateur. Cette forêt, il l'a baptisée l'électrique botanique ensemble, et c'est le prolongement d'une autre installation éphémère qu'il a perchée dans les arbres du parc de Lucin Sauveur. Thierry de Fréquence Luz a rencontré pour nous Basile Robert autour des deux protagonistes de jeunes observateurs.
Basile Robert, bonjour.
Bonjour.
Installateur sur Jazzalus.
Voilà, ravi d'être ici.
parmi vous. Alors je vous amène ici une double installation en fait. Il y en a une qui est dans un arbre. C'est un essai que j'avais fait il y a un an tout rond, où ces modules qui sont là, perchés dans les arbres, d'habitude ils sont en haut d'un totem. Et l'idée c'est de faire quelque chose d'immersif où les sons sont fabriqués par des mouvements mécaniques.
Avec le vent notamment ou
Non, il n'y a aucun. D'accord. Tout est électrique et informatisé. Je fais la musique d'un laptop, comme on dit.
Ouais, d'accord. Okay.
Mais le son il sort pas par des haut-parleurs, mais il est fabriqué à partir de petits moteurs qui viennent taper, frotter, grincer, faire tourner. Mon travail est très expérimental. Je pars du son. Et j'utilise beaucoup les accidents. Il y a très peu de composition, où la composition se fait en direct, c'est-à-dire c'est de l'improvisation avec les outils.
Alors voilà. Le laptop, il sert à quoi tout ce qui est géré par l'informatique, ça sert à quoi
à rappeler des mémoires, certes.
C'est ça.
Mais
donc
par
des
contre,
loops, hein, des samples, des formes de samples.
Il y a aussi des formes de loops et des samples qui peuvent être mémorisés, bien sûr.
Ouais,
mais sinon, en général, les choses, je les découvre en direct, parce que chacun de l'installation est différente, les lieux sont différents. Ça sonne différemment et du coup on peut pas vraiment écrire des choses qui restent dans le temps. Voilà. Ce travail-là, en fait, c'est un peu la suite dans un arbre. Il y a une autre installation qui sera dans la salle de la mairie dès après-demain, et qui s'appelle l'électrique botanique ensemble. Et c'est toute une série de modules, comme ça, il y en a une centaine, qui, au lieu d'être suspendus, ils sont enfichés sur comme un totem à hauteur d'homme. Voilà. Et c'est vraiment l'objet que je vais récupérer, que je vais essayer de voir teinter un peu, voir comment il sonne. Et ensuite essayer de lui apposer quelque chose, un petit moteur ou quelque chose, pour le faire sonner, voilà. Et la construction se fait à partir de l'objet. Il se trouve que la plupart des objets que j'ai récupérés sont ronds.
Pourquoi ?
Je sais pas. Il y a beaucoup de casseroles, il y a beaucoup de couvercles, il y a beaucoup de...
Tambours de machine à laver ?
Voilà, des bouts de tambours de machine à laver, des réflecteurs de lampes à gaz. Enfin, voilà. Voilà. Après, là, il y a des bouts d'instruments classiques, vous pouvez reconnaître. Il y a 4-5 tambours...
Des bongos,
qui sont issus de vieilles batteries, voilà, qui ont été juste équipées d'un petit moteur. Et les petits moteurs, la provenance, ce sont les imprimantes. Vous savez, les imprimantes qu'on fait une ramette de feuilles, deux ramettes de feuilles, on change une fois les cartouches, deux fois les cartouches, on rachète une troisième fois les cartouches, et ça marche plus. Tout est normal, mais à l'intérieur, les moteurs sont tout neufs, je vous assure.
Donc voilà.
Voilà.
On sait où ils passent, nos moteurs d'imprimantes.
Assemble des objets de récupération, il les met en vibration avec l'aide d'actionneurs en tout genre, le tout piloté par l'informatique, avec une grande part d'aléatoire et d'improvisation. Basile Robert a semé à Jazalus son grain de folie poétique, une très belle installation qu'il faut bien évidemment autant voir qu'écouter. «
Les installations, les solos ont été deux fils rouges importants de cette 26e édition de Jazz à Luce, festival d'altitude en Pays Toy. Troisième thématique importante sur laquelle j'ai choisi de refermer cette mosaïque sonore, les collectifs. Une occasion de poser le zoom sur un phénomène très intéressant, le bouillonnement de collectifs sur la scène du jazz et des musiques improvisées en France. Alors des collectifs, il y en a un peu partout sur notre territoire, à Tours, à Lyon, à Rouen, à Orléans, à Nantes ou encore à Paris. La musique de ces collectifs défie toutes les étiquettes, toutes les catégories. Il est quasiment impossible de la ranger dans un tiroir. Jazz à Luce a invité des musiciens de 5 collectifs sur cette édition. Nous allons jeter une oreille vers la musique de l'un de ces collectifs. Il est installé à Paris. Il s'appelle 11h11 et ne me demandez pas pourquoi. Parmi les nombreux projets de ce collectif, producteur d'un label et organisateur d'événements, il y a un orchestre de 14 musiciens baptisé Home Grand Ensemble, initié par le clarinettiste et saxophoniste Julien Ponviane, une musique entre écriture et improvisation pensée autour d'un récit de Thoreau, Walden ou La vie dans les bois. Public du chapiteau de Luce Saint-Sauveur, les musiciens du Home Grand Ensemble ont déroulé les formes longues, hypnotiques même, d'une musique baptisée Siléré et qui a fait l'objet d'un enregistrement discographique sur le label du collectif 11h11. Jean-Pierre Lérac, directeur de Jazz à Luce, au micro de Arnaud de Fréquence Luce.
Home Grand Ensemble, c'est une des révélations, je crois, quand même, dans l'année, des amateurs de ces expérimentations sonores du jazz actuel.
Alors voilà, c'est vrai que chaque année, quand on travaille à la programmation, tout d'un coup, comme ça, il y a une espèce de coup de cœur. Comme ça, parce qu'on écoute beaucoup de disques, évidemment, les musiciens nous envoient. Et puis tout d'un coup, il y a une petite chose comme ça, on écoute, on dit, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. C'est quelque chose de très différent. Ouais. Et moi, ça fait quelques années que je suis en grand ensemble. On avait déjà essayé de peut-être projeter de les faire, mais on a attendu un petit peu. Et là, la dernière production qu'ils font, là, c'est quelque chose de tellement étonnant. On s'est dit, voilà. Alors, c'est vrai, c'est un ensemble qui a joué pratiquement qu'à Paris. Donc, ils étaient assez surpris qu'on leur demande de descendre au sud de la France. Mais voilà, c'est le genre de challenge qu'on aime bien. C'est-à-dire, là, on va vraiment découvrir un univers qui est très particulier, avec une musique que les gens n'ont pas entendue encore. C'est vraiment un très, très beau projet. Je dirais que c'est un peu notre coup de foudre, quoi. Thank you.
Après le concert, mon micro se promène parmi les musiciens de l'orchestre de Julien Ponviane, le Home Grand Ensemble, mais ils sont bien trop nombreux pour le temps qui nous reste. C'est Julien Ponviane qui mène la danse. Et cette idée de grand ensemble, elle t'est venue comment ?
Bah, elle est probablement pas mal venue du CNSM, justement, où on a un peu tout ce luxe de pouvoir faire des projets avec tous les gens qui sont là-bas, sans trop de contraintes matérielles, parce qu'il y a à peu près tout ce qu'il faut pour répéter, enfin pour jouer. Donc ça vient beaucoup de là, puis j'ai eu du mal à me faire à l'idée que je pourrais pas le faire dans la vraie vie, donc j'ai essayé de le faire quand même. Voilà.
Alors, comment fonctionne Home ? À base de compositions de toi uniquement, ou d'autres musiciens de l'ensemble peuvent être amenés à mettre la main à la pâte ?
Jusqu'à maintenant, c'est moi qui écrivais. Et on a monté deux répertoires, en fait, dont Siléré qu'on vient de jouer, on l'a monté en 2013. Et l'idée, c'est de faire une résidence d'une semaine, et on monte le répertoire, et puis après, on le joue et on répète plus, quoi.
Et ces résidences ont eu lieu où alors ?
Alors cette résidence pour Siléré, c'était à la ferme du Buisson, à Noisiel, en Seine-et-Marne. Et la première résidence, en 2010, elle avait lieu au 104, Paris, 19e.
Alors les autres, est-ce que c'est pas un peu déséquilibré cette situation d'avoir un leader comme ça, un cerveau, un compositeur qui couche sur le papier ses idées musicales et vous qui finalement êtes là pour jouer sa musique? Ça vous pose pas problème ça? Parce que vous êtes tous improvisateurs plus ou moins, non?
Il nous laisse beaucoup d'espace. Il y a de l'espace dans la musique, mais aussi dans la partition, dans la manière de faire. Il n'apporte jamais de réponse quand on lui pose une question pour nous laisser libre. Non, mais c'est simple. C'est aussi écrit pour nous. On a partagé cette époque de rencontres, oui. Et puis aussi tout le chemin musical. Et en fait, nos chemins musicaux se croisent et il écrit au point de croisement. Donc en fait, on improvise autant qu'on joue. On joue la musique qu'on doit jouer ensemble. Et c'est plus
ça veut dire que vous vous reconnaissez complètement dans cette musique.
Ah ben complètement, ouais. C'est une partition et c'est difficile de se faire remplacer. Ouais, c'est écrit pour nous, quoi. C'est ça qui est beau.
C'est du sur mesure.
Exactement, ouais. et ça rend chacun à sa place dans un tout. Et c'est surtout ça, ce rôle de composition, c'est un travail de forme et de répartition des espaces.
Oui.
Il y a le chef qui va aussi donner sa patte sur l'instant, faire avec ses propres ressentis. Et comme dans le concert de ce soir, il y a des choses qui se passent, qui arrivent comme ça, et qui, malgré tous les cadres, arrivent à exister et à créer des nouveautés. L'improvisation vient même dans ce cadre-là.
Compte en une heure seulement du festival Jazz à Luz et de toutes ses facettes, ses balades artistiques, ses installations sonores et ses créations. Mission impossible, je m'arrête là. La pendule de notre studio est impitoyable. Alors si vous êtes resté sur votre faim, le mieux est de réserver votre billet de train pour la 27e édition de Jazz à Luz en juillet prochain, ou encore de jeter une oreille vers le très beau travail réalisé par mes deux collègues de la radio des Vallées des Gaves, Fréquence Luz, Arnaud et Thierry. Fréquence Luz a un site www.fréquenceluz.com. Vous pourrez retrouver des sons du festival. C'est Françoise Cordet qui a réalisé cette émission avec Jean-Richard Dufour et Soisic Noël, une équipe de choc qui n'a pas réalisé, je vous le jure, l'émission La tête en bas, comme l'y invitait l'affiche de la 26e édition de Jazz à Luz, très jolie affiche réalisée par François d'Intrans.
À l'improviste sur France Musique, Anne Montaron.
Il est minuit, une Anne Montaron en vaut bien une autre.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.